J'ai terminé ma tournée hier, en fait, j'étais à Berlin. Donc je suis rentré, j'ai pris un avion malgré la neige. On a quand même réussi à sauter dans un avion. Et je suis arrivé à Paris, puis me voilà aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire de Jeanne, donc c'est extraordinaire.
Est-ce qu'on peut avoir votre réaction, vos premiers sentiments? C'est pas facile parce que vous sortez de l'exposition, mais par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu aussi, parce que la voix de Jeanne, elle est omniprésente du seuil jusqu'à l'autre côté de l'expo.
D'abord, c'est une exposition qui est très bien documentée, c'est très immersif. On se sent bien et c'est un petit peu difficile de sortir. Quand je suis arrivé dans cette pièce, je ne pouvais pas décoder, dire oui, ça c'était comme ci ou comme ça. Voilà. Je ne suis pas dans un moment où je peux véritablement analyser. Ça m'a plu, je me suis senti bien, je me suis senti enveloppé par la présence de Jeanne et aussi par des Jeannes que je ne connais pas. Il y a plein de documents que je n'avais jamais vus du tout. Et c'est là où on voit l'étendue de la palette, alors que c'est vraiment sur une partie seulement de ses activités, le théâtre, quoi. Et un tout petit peu la chanson, si on... il y a une petite pièce chanson. Il y a plein de choses que j'avais jamais vues, j'ai appris des choses, j'ai d'autres facettes maintenant à la femme multiple qu'est Jeanne, de toute façon. C'est une belle exposition, je suis vraiment très heureux de la voir et d'être là aujourd'hui.
Le condamné à mort que vous avez donné dans la cour d'honneur du Palais des Papes, ce poème mis en musique par Hélène Martin, c'est vous qui lui avez apporté le projet au départ?
Jeanne est venue me voir à l'Olympia et je l'ai repérée dans la salle parce qu'elle était au premier balcon en face de moi. C'est comme si on mettait un projecteur sur quelqu'un en fait, dans la salle. C'est-à-dire qu'elle était au centre, au premier rang, au premier balcon et debout. Elle dansait. Je l'avais dansée sur des chansons comme Épaules tatouées et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que c'était Jeanne Moreau. Et elle est venue me voir après. Backstage, elle m'a parlé du spectacle avec son œil de femme de théâtre et de cinéma, ce qui était quand même très intéressant. Je chantais sur mon cou un extrait du Condamné à mort. Et donc elle est venue me voir après le concert pour me dire vraiment cette chanson m'a retourné et je lui ai dit grisé par le succès du show qu'on venait de faire et par l'état très particulier dans lequel on est quand on sort de scène, je n'aurais jamais demandé autrement. Je lui ai dit, bah, faisons l'intégrale de l'œuvre ensemble. Et elle m'a dit oui. C'est aussi simple que ça. Et on a commencé à travailler une semaine après.
Il y avait déjà l'idée du plein air, de la cour d'honneur et du festival d'Avignon.
Oh, pas du tout, il n'était pas question de tourner. Hein. On a commencé à faire les lectures. Moi, je voulais qu'elle chante. Et j'avais l'intention de faire tout le côté chanson et de lui laisser le côté récitatif. Et en fait, elle m'a amené dans le texte et elle m'a encouragé, rassuré sur le fait que je pouvais incarner ce texte, je pouvais donner chair à ce texte aussi. Et donc on a commencé à faire les lectures et elle a commencé à me dire, ça c'est trop masculin, je vous laisse imaginer puisque vous connaissez le texte. Donc ça c'est toi. Donc je dis, ah bon, okay, d'accord, ça ce sera moi. Et donc ça s'est fait comme ça, très simplement. On a mis du temps, on se voyait toutes les semaines, on travaillait, après chacun travaillait de son côté. On laissait le projet infuser. Mais en plus, j'étais en fin de contrat dans une maison de disques dans laquelle je voulais pas rester. J'avais l'intention de monter un label pour moi, et donc d'être complètement libre et d'avoir personne pour regarder sur mon épaule. Et c'était le moment absolument parfait pour que je puisse faire ce projet, le financer, aller au bout de cette histoire et de prendre mon temps surtout. Et on a pris un an pour le faire. On est revenu dessus plein de fois. On écoutait, on revenait en studio, on faisait des petits bouts. Par contre, le chant, c'est une prise.
Quelle était l'image de Jeanne Moreau que vous aviez avant de la côtoyer et de devenir un intime jusqu'à la fin?
Oh, j'avais l'image d'un personnage presque mythologique déjà. Je l'écoutais beaucoup quand j'étais petit. À la maison, nous avions les deux premiers albums. Donc je connaissais très très bien les chansons. Et ça faisait partie des albums que j'aimais vraiment, entre le Velvet Underground, Iggy Pop. Il y avait aussi les albums de Jeanne
C'était
Moreau.
éclectique.
Tout à fait. Mais il y a cette chose très incisive aussi dans ces chansons. C'est très léger, piquant, et en même temps, il y a cette espèce d'énergie comme ça, un peu punk. Plein de films. Je crois que le premier que j'ai vu, c'est Viva Maria. C'est pas le meilleur. Mais bon, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot, quand on est un enfant, c'est quand même des images de femmes qui marquent. Après, j'ai vu plein de films, et bien sûr, Ascenseur pour l'échafaud, des films que j'ai vus aussi à la télé, hein, qui étaient programmés régulièrement, mais aussi La mariée était en noir. Eva, et puis après j'ai découvert d'autres films qui étaient un peu moins connus mais que j'ai vraiment adoré comme Mademoiselle, d'une beauté incroyable, qui justement est
Ça
un...
fait penser à Jean Genet d'ailleurs.
mais qui est un scénario de Jean Genet, ouais, justement. Alors, je l'ai vue la première fois, c'était à Canal+. Elle était invitée plateau, première invitée, et moi, j'étais le deuxième invité. Et quand elle est sortie du plateau, donc moi, j'attendais pour passer, elle s'est dirigée vers moi, elle m'a foncé dessus, elle m'a pris par les épaules, elle m'a dit « Je vous aime beaucoup ». Donc, j'étais très impressionné, parce que moi, je savais qu'elle était là, j'avais amené un disque à faire dédicacer, un des albums qu'on avait à la maison, justement. Ensuite, je l'ai revue à une première d'un film d'Olivia Sayas, Clean, où on s'est parlé un peu plus longtemps, et puis après, elle est venue me voir à l'Olympia. Et quand on a commencé ce projet du condamné, il y a eu une fusion véritable, vraiment, quelque chose de très, très, très puissant. Elle s'appelait tous les jours, plusieurs fois par jour, à avoir quelqu'un qui rentre dans sa vie comme si cette personne avait toujours été là. C'est une rencontre très, très, très importante. Déjà, c'est une personnalité qui vous change. Enfin, je trouve que vraiment, je ne suis plus la même personne après. Bon, il y a l'expérience du condamné à mort aussi, qui est quand même quelque chose de... C'est un pas de côté dans ma carrière de musicien, qui a beaucoup nourri la suite aussi.
Dans l'exposition, il y a la voix de Jeanne sans arrêt, qui parle de son métier, qui parle de sa vie aussi. Elle a notamment une phrase magnifique, « On ne change pas de vie, on continue à vivre ». Vous parliez comme ça de la vie, du métier, de l'expérience, du temps qui passe, cette façon de rencontrer une dame qui a de l'expérience, une sorte de sagesse, je dirais, et puis une intelligence extraordinaire.
Une intelligence de la vie, et d'appétit de vie, et de jeunesse surtout. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le côté impétueux, comme une jeune fille qui choisit, qui dit oui, qui dit non, comme une ado, en fait, qui a des rejets, des élans. Je trouvais ça très beau chez elle. Et le fait qu'elle mette toujours au centre, ça, c'est très important pour moi aussi. C'est une qualité que j'aime beaucoup, c'est de mettre toujours au centre de son temps et de ses préoccupations son travail, et de le faire le plus honnêtement, le plus dignement possible. On partageait cette chose-là aussi, c'est-à-dire de vraiment de consacrer un temps infini au fait de faire quelque chose, de le faire bien, de le faire avec son cœur, de le défendre bec et ongles. Donc là, on s'est bien trouvé là. On s'est bien trouvé. La côtoyer, parler avec elle de choses quotidiennes, de la voir vivre, et aussi de faire ce projet avec elle, de porter comme un drapeau ce texte qui, au départ, a beaucoup choqué les gens. Et en fait, finalement, par l'intermédiaire de la musique, voilà, c'est une vibration qu'on peut attraper assez facilement. Finalement, un texte qui pouvait rebuter certaines personnes, qui pouvait faire peur à certaines personnes. On a eu la sensation, ce qui était une de nos grandes satisfactions, de l'avoir sorti un peu, pas de l'enfer, mais de l'amener vers le monde. On a eu l'impression de le rendre universel, ce texte, en fait, qui n'était pas du tout cloisonné dans ce qu'il est, en fait, à la base. C'est un texte qui ne parle que d'amour et de désir fou, enfin, de la passion amoureuse et le désir fou. Et c'est très universel. Et je crois que le fait que ce soit un homme et une femme qui le portent faisait que tout d'un coup, on était ailleurs. Et oui, ça rendait le texte plus universel. Bien que l'original de Marc Augeret soit absolument merveilleux. C'est un modèle, c'est un album que j'écoutais quand j'étais adolescent. J'étais très impressionné par ce disque. Il est parfait dans ce qu'il est, quoi. On a juste essayé de faire autre chose, comme si on fait une reprise d'une chanson qu'on aime beaucoup.
À l'exposition, il y a une pièce, enfin une salle consacrée à sa carrière discographique. Finalement, c'est un moment de sa vie et de sa carrière. Et en même temps, bon, il y a des chansons qu'on continue à fredonner, La mémoire qui flanche, ou Battu Mathilde. Et puis il y a cette voix. En tant que chanteur, comment vous pourriez apprécier justement la voix et le répertoire de Jeanne Moreau ?
Elle a une voix qui pique. Alors, comment expliquer ça ? Sa voix est extrêmement bien équilibrée. Enfin, le spectre de sa voix est extrêmement bien équilibré.
C'est dû au théâtre, ça ?
Probablement qu'elle a placé sa voix en faisant du théâtre, parce qu'il faut projeter. Mais pas que, parce qu'il y a une très grande justesse. Dans chaque chanson, il y a comme si elle incarne. C'est comme un petit rôle, c'est comme une petite scénette de film. Les wagons longs de lit, tout ça. La fumée permettait, est-ce que ça vous déplaît ? Ouais, c'est merveilleux. Enfin, j'adore ces disques. Je ne les connaissais pas tous, je connaissais les deux premiers surtout. Et puis après, j'ai découvert d'autres chansons. J'ai découvert une chanson qui s'appelle L'insaisissable, qui est extrêmement courte, qui fait 1 minute 10, mais qui est très elle. Il y a cette espèce de développement comme ça, harmonique, en un temps extrêmement court. C'est comme prendre un shot d'alcool très fort. Et il y a aussi des chansons que j'ai découvertes, parce qu'en fait, quand on a eu le projet de faire Le condamné à mort, on s'est confronté au fait que c'était très très court en temps, et qu'il fallait trouver une manière de l'étendre, enfin de faire quelque chose de plus long. Et donc on a tourné autour, je voulais la faire chanter en fait. Je n'ai pas réussi. Ce sont les têtes raides qui ont réussi à la faire chanter. Elle me l'avait cachée, elle m'a fait une infidélité pendant notre relation. Elle a une voix qui est très bien placée, les graves, les aigus, tout ça, c'est parfait. Je sais pas, elle les porte d'une manière. Il y a une légèreté toujours. Il y a un sourire dans la voix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans les premiers albums, après, la voix commence à changer avec India Song. Tout d'un coup, elle devient plus grave. Ce duo avec Marguerite Duras, c'est incroyable. Hein. J'ai travaillé des chansons du répertoire le plus récent, qui étaient les chansons de Norge, Le Tueur et la Tuée notamment. Donc j'ai fait les maquettes que j'ai chantées pour qu'elle les travaille. Je lui disais régulièrement, alors, t'as travaillé les chansons, t'as travaillé le chant. Oui, oui, oui. Elle n'a jamais chanté. Les élans et les affinités sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça s'impose à soi. J'aurais bien du mal à expliquer l'inexplicable. Peut-être que c'est une bêtise, j'ai l'impression que c'est une famille d'esprit. Et donc on se comprend et on partage certaines valeurs, qu'on est là pour faire quelque chose qui va être utile pour les autres. Et puis il y a le quotidien aussi. Vous savez, comme quand vous rencontrez quelqu'un qui a un savoir, donc vous avez faim, vous avez envie de vivre avec cette personne, qu'elle vous parle, ça fait des échos. Quand vous êtes complètement disponible en ouverture, ça veut dire que vous êtes prêt à entendre certaines choses. J'ai eu ça auparavant, j'ai eu la chance de faire des rencontres importantes de gens qui étaient plus âgés, plus expérimentés que moi, comme Serge Gainsbourg dans la musique, et qui m'ont transmis des choses alors que j'étais débutant, que j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai mesuré la chance que j'avais d'être regardé, considéré comme un des leurs. Donc d'absorber les choses, et puis les choses infusent et on les comprend parfois beaucoup plus tard. Elle est très présente, très souvent. En plus, elle est enterrée à côté de chez moi, à Montmartre, hein, donc j'ai un œil sur elle. De temps en temps, je vais la visiter, je passe comme ça. Mais bon, c'est pas l'endroit non plus où elle est le plus présente. Elle m'avait vaguement évoqué le fait qu'elle voulait que je jette un œil sur ses affaires. C'est resté à l'état d'une conversation extrêmement vague. Une ou deux fois, je lui dis alors, bon, tu voulais me parler de quelque chose ? Elle me dit, c'est pas le moment. On n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Lorsqu'elle est partie, Robert Guillaumont, qui était très proche d'elle, qui est un avocat qui est en charge de cette fondation, qui n'est pas encore une fondation, m'a dit, voilà, Jeanne souhaitait que dans les trois personnes qui s'occupent de ses affaires, vous soyez avec nous. Panique. Parce que c'est une grosse responsabilité, à la fois complètement touchée par la confiance. C'est une marque de confiance incroyable. Connaissant Jeanne et connaissant le soin qu'elle avait à ce que sa parole soit vraiment véhiculée de la manière la plus directe et la plus vraie possible, qu'elle me choisisse, c'est très important. Je ne suis qu'une relation de la fin de son parcours. Elle cloisonnait beaucoup, donc je ne savais pas s'il y avait d'autres gens avec lesquels elle avait des liens très forts. Moi, j'estimais que j'avais un lien très fort avec elle, mais c'est comme avec Gainsbourg. Ce sont des gens qui cloisonnent et avec qui vous avez des rapports tellement intenses que vous avez l'impression par moment d'être l'élu. Au départ, j'ai dit non, je ne veux pas. Enfin, je serai là si vous avez besoin de moi, mais c'est trop. Et puis en fait, Robert Guillaumont, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, m'a rassuré sur mon rôle. Parce que moi aussi, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Donc j'avais aussi peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Et je ne savais pas de quel temps. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de projets dans la musique. Et je m'implique tellement à fond, et pour moi et pour les autres, qu'après, j'ai très peu de temps. Donc je n'avais pas envie de faire ça par-dessus la jambe. Et je voulais qu'ils le sachent. Je voulais qu'ils entendent, vraiment qu'ils, que Hugues aussi, Hugues Wabo. Je voulais que tous les deux, qui sont les deux autres personnes de la Fondation, je voulais qu'ils entendent mon manque de temps et ma réserve. On se rencontre, on donne des accords pour des gens qui veulent utiliser ou l'image de Jeanne ou qui veulent faire des choses avec Jeanne. Moi, j'avais dit au départ que je voulais m'occuper de l'aspect musique, c'est-à-dire continuer à faire vivre le catalogue et Jeanne en tant qu'interprète de chansons. C'est quelque chose que je saurais faire et que je vais faire. Après, il y a d'autres travaux, d'autres rôles qui vont arriver et je vais travailler avec les autres, je serai avec eux. J'hésite un peu parce qu'en fait, c'est tout nouveau pour moi, donc je ne veux pas vous raconter de bêtises ou de mensonges. Pour moi, c'est un petit peu flou encore pour l'instant. Et on est en train de se structurer, c'est très compliqué. D'abord, il faut évaluer son travail, ses biens, ce qu'elle a, comment on peut faire connaître son travail et le rendre toujours présent dans le cœur du public ou de le faire découvrir à des gens qui ne la connaissent pas. Il y a aussi une partie qui est destinée à l'enfance aussi, qu'une partie des revenus de la Fondation va servir à faire connaître le théâtre à des jeunes défavorisés des quartiers. C'est un gros challenge qui est assez passionnant. Et donc voilà, tout ça va se mettre en place. J'espère être à la hauteur des attentes de Jeanne, mais enfin, elle nous regarde de là-haut. Pour l'instant, ça va. Elle m'avait vaguement évoqué le fait qu'elle voulait que je jette un œil sur ses affaires. C'est resté à l'état d'une conversation extrêmement vague. Une ou deux fois, je dis alors, bon, tu voulais me parler de quelque chose. C'est pas le moment. On n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Lorsqu'elle est partie, Robert Guillaumont, qui était très proche d'elle, qui est un avocat, qui est en charge de cette fondation, qui n'est pas encore une fondation, m'a dit, voilà, Jeanne souhaitait que dans les trois personnes qui s'occupent de ses affaires, vous soyez avec nous. Panique. Parce que c'est une grosse responsabilité, à la fois complètement touchée par la confiance. C'est une marque de confiance incroyable. Connaissant Jeanne et connaissant le soin qu'elle avait à ce que sa parole soit vraiment véhiculée de la manière la plus directe et la plus vraie possible, qu'elle me choisisse, c'est très important. Je ne suis qu'une relation de la fin de son parcours. Elle cloisonnait beaucoup. Donc je ne savais pas s'il y avait d'autres gens avec lesquels elle avait des liens très forts. Moi, j'estimais que j'avais un lien très fort avec elle, mais c'est comme avec Gainsbourg. Ce sont des gens qui cloisonnent et avec qui vous avez des rapports tellement intenses que vous avez l'impression par moment d'être l'élu. Au départ, j'ai dit non, je ne veux pas. Enfin, je serai là si vous avez besoin de moi, mais c'est trop. Et puis en fait, Robert Guillaumont, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, m'a rassuré sur mon rôle. Parce que moi aussi, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Donc j'avais aussi peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Et je ne savais pas de quel temps. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de projets dans la musique. Et je m'implique tellement à fond, et pour moi et pour les autres, qu'après, j'ai très peu de temps. Donc je n'avais pas envie de faire ça par-dessus la jambe. Et je voulais qu'ils le sachent. Je voulais qu'ils entendent, vraiment qu'ils, que Hugues aussi, Hugues Wabeau, je voulais que tous les deux, qui sont les deux autres personnes de la Fondation, je voulais qu'ils entendent mon manque de temps et ma réserve. On se rencontre, on donne des accords pour des gens qui veulent utiliser ou l'image de Jeanne ou qui veulent faire des choses avec Jeanne. Moi, j'avais dit au départ que je voulais m'occuper de l'aspect musique, c'est-à-dire continuer à faire vivre le catalogue et Jeanne en tant qu'interprète de chansons. C'est quelque chose que je saurais faire et que je vais faire. Après, il y a d'autres travaux, d'autres rôles qui vont arriver et je vais travailler avec les autres, je serai avec eux. J'hésite un peu parce qu'en fait, c'est tout nouveau pour moi, donc je ne veux pas vous raconter de bêtises ou de mensonges. Pour moi, c'est un petit peu flou encore pour l'instant. Et on est en train de se structurer, c'est très compliqué. D'abord, il faut évaluer son travail, ses biens, ce qu'elle a, comment on peut faire connaître son travail et le rendre toujours présent dans le cœur du public ou de le faire découvrir à des gens qui ne la connaissent pas. Il y a aussi une partie qui est destinée à l'enfance aussi, qu'une partie des revenus de la Fondation va servir à faire connaître le théâtre à des jeunes défavorisés des quartiers. C'est un gros challenge qui est assez passionnant. Et donc voilà, tout ça va se mettre en place. J'espère être à la hauteur des attentes de Jeanne, mais enfin, elle nous regarde de là-haut. Pour l'instant, ça va.
Je l'avais rencontré, Jeanne Moreau, pendant une demi-heure à la Mirande, l'année du condamné à mort, une demi-heure en tête-à-tête, en interview. Alors, elle m'avait accueilli, c'était presque la reine-mère seigneuriale, quoi. Hein. Alors, avec sa voix grave, et puis il y a des moments, elle se mettait en colère, puis après, je lui ai parlé de Mademoiselle, le film de Tony Richardson. Il y avait des moments où on avait l'impression qu'elle s'amusait de son personnage, où il y avait des moments où elle partait comme ça, parce que Mademoiselle, ça a été une sacrée aventure pour elle. Et on passait comme ça, d'un extrême à l'autre, en l'espace de quelques minutes. Ça le faisait, ça aussi, dans la vie, en dehors des interviews qui sont assez formelles?
Il y avait une grande excitation pour nous deux de venir ici. C'était important pour elle de venir ici. C'est sa maison. Je me souviens quand on est arrivé dans la cour des papes l'après-midi, parce que je voulais voir l'endroit. C'était très impressionnant, je m'étais imaginé mille choses. Elle a commencé à déclamer. Elle était chez elle. Sa voix résonnait dans l'espace, c'était merveilleux. Méfie-toi de la douceur des choses. Elle est partie. C'était un moment de grande excitation, donc je pense qu'elle avait envie de s'amuser aussi. Elle était un peu dans son personnage, mais elle était très lucide. Hein. C'était du jeu. C'était un beau moment. C'était un très très beau moment. C'était la dernière fois où on a joué le condamné, je crois. C'est la dernière fois, la dernière représentation. C'était très impressionnant pour moi, qui vient du monde de la pop. C'était un pas de côté. J'ai eu la sensation, c'est vrai, quand j'ai commencé ce projet, d'être le cousin de la pop qui vient, et parfois, avec certaines personnes, avec beaucoup de circonspection. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là, quoi? On m'avait dit, tu verras, fais attention, le public d'Avignon peut manifester son hostilité avec beaucoup de bruit. C'était très encourageant avant de monter sur scène. Et puis voilà, on est monté sur scène, je l'amenais toujours par le bras, elle allait à son pupitre. Moi, j'allais au micro, j'attendais 20 minutes sans rien faire, dans les lumières, ce qui était assez impressionnant, parce que c'est un moment où il y a plein de choses qui vous passent par la tête. qui vont de, je ne sais plus, je me souviens plus du texte, il n'y a pas de prompteur. Puis la voix, c'est quelque chose de très fragile. La voix, c'est l'émotion. Donc l'émotion, la peur aussi, le trac de ne pas être à la hauteur faisait que j'avais peur du premier son qui allait sortir. J'étais pétrifié. Et puis il y avait ce petit vent très doux, comme ça, ce vent chaud. On se regardait. Voilà, on savait que que ce serait beau, voilà, que ce serait juste. Et à la fin, Jeanne, au fur et à mesure des représentations, me mettait toujours en avant. Moi, j'étais toujours en retrait parce que je m'en fous d'être devant et que ce n'était pas le sujet. Elle a l'habitude de ça. Elle a l'habitude de la lumière, que la lumière soit sur elle. Et moi, j'avais envie qu'elle soit bien. J'ai fait ce projet en l'entourant. Il y avait quelque chose de très équitable et de très équilibré dans notre relation. Parce que moi, j'amenais la musique, elle amenait le théâtre. Et on était bien. Chacun apportait son savoir-faire. On partageait ça. On était bien. Chacun était bien avec l'autre et était curieux du monde de l'autre. Donc c'était très 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 confortable, c'était très très bien. Elle aimait le côté je suis la chanteuse du groupe de rock. Avec ses years et tout ça, il y avait un truc comme ça. Je crois que vraiment ça lui a plu. Elle est très vite devenue l'idole de toute l'équipe technique et des musiciens. On était tous complètement amoureux d'elle, bien sûr. Elle avait ce côté, elle a ce côté, un charme qui n'a pas d'âge, quoi. Une séduction sans âge. Véritablement. Vous pouvez vraiment tomber amoureux d'elle. Et au fur et à mesure des représentations, elle me poussait devant dans la lumière. Et le dernier soir, et ça a été filmé, donc j'ai revu ces images dans un documentaire qui a été fait il n'y a pas longtemps, elle m'a poussé devant elle comme ça, elle m'a entouré comme ça. Elle était derrière moi, elle a posé sa tête. Et c'était un moment très très fort, quoi, vraiment. Il y a des moments comme ça dans sa vie.
Je l'avais rencontré, Jeanne Moreau, pendant une demi-heure à la Mirande, l'année du condamné à mort, une demi-heure en tête-à-tête, en interview. Alors elle m'avait accueilli, c'était presque la reine-mère seigneuriale, quoi. Ouais. Alors avec sa voix grave, et puis il y a des moments où elle se mettait en colère, puis après je lui ai parlé de Mademoiselle, le film de Tony Richardson. Il y avait des moments où on avait l'impression qu'elle s'amusait de son personnage, où il y avait des moments où elle partait comme ça, parce que Mademoiselle, ça a été une sacrée aventure pour elle. Et on passait comme ça, d'un extrême à l'autre, en l'espace de quelques minutes. Ça le faisait ça aussi dans la vie, en dehors des interviews qui sont assez formelles.
Il y avait une grande excitation pour nous deux de venir ici. C'était important pour elle de venir ici. C'est sa maison. Je me souviens quand on est arrivé dans la cour des papes l'après-midi, parce que je voulais voir l'endroit. C'était très impressionnant, je m'étais imaginé mille choses. Elle a commencé à déclamer. Elle était chez elle. Sa voix résonnait dans l'espace, c'était merveilleux. Méfie-toi de la douceur des choses. Elle est partie. C'était un moment de grande excitation, donc je pense qu'elle avait envie de s'amuser aussi. Elle était un peu dans son personnage, mais elle était très lucide, hein. C'était du jeu. C'était un beau moment. C'était un très très beau moment. C'était la dernière fois où on a joué le condamné, je crois. C'est la dernière fois, la dernière représentation. C'était très impressionnant pour moi, qui vient du monde de la pop. C'était un pas de côté. J'ai eu la sensation, c'est vrai, quand j'ai commencé ce projet, d'être le cousin de la pop qui vient, et parfois, avec certaines personnes, avec beaucoup de circonspection. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là, quoi? On m'avait dit, tu verras, fais attention, le public d'Avignon peut manifester son hostilité avec beaucoup de bruit. C'était très encourageant avant de monter sur scène. Et puis voilà, on est monté sur scène, je la tenais toujours par le bras, elle allait à son pupitre. Moi, j'allais au micro, j'attendais 20 minutes sans rien faire, dans les lumières, ce qui était assez impressionnant, parce que c'est un moment où il y a plein de choses qui vous passent par la tête, qui vont de, je ne sais plus, je me souviens plus du texte, il n'y a pas de prompteur. Puis la voix, c'est quelque chose de très fragile. La voix, c'est l'émotion. Donc l'émotion, la peur aussi, le trac de ne pas être à la hauteur, faisait que j'avais peur du premier son qui allait sortir. J'étais pétrifié. Et puis il y avait ce petit vent très doux, comme ça, ce vent chaud. On se regardait. Voilà, on savait que ce serait beau, voilà, que ce serait juste. Et à la fin, Jeanne, au fur et à mesure des représentations, me mettait toujours en avant. Moi, j'étais toujours en retrait parce que je m'en fous d'être devant et que ce n'était pas le sujet. Elle a l'habitude de ça. Elle a l'habitude de la lumière, que la lumière soit sur elle. Et moi, j'avais envie qu'elle soit bien. J'ai fait ce projet en l'entourant. Il y avait quelque chose de très équitable et de très équilibré dans notre relation. Parce que moi, j'amenais la musique, elle amenait le théâtre. Et on était bien. Chacun apportait son savoir-faire. On partageait ça. On était bien. Chacun était bien avec l'autre et était curieux du monde de l'autre. Donc c'était très 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 confortable, c'était très très bien. Elle aimait le côté « je suis la chanteuse du groupe de rock ». Avec ses years et tout ça, il y avait un truc comme ça. Je crois que ça, vraiment ça lui a plu. Elle est très vite devenue l'idole de toute l'équipe technique et des musiciens. On était tous complètement amoureux d'elle, bien sûr. Elle a ce côté, un charme qui n'a pas d'âge, quoi. Une séduction sans âge, véritablement. Vous pouvez vraiment tomber amoureux d'elle. Et au fur et à mesure des représentations, elle me poussait devant dans la lumière. Et le dernier soir, et ça a été filmé, donc j'ai revu ces images dans un documentaire qui a été fait il n'y a pas longtemps, elle m'a poussé devant elle comme ça, elle m'a entouré comme ça. Elle était derrière moi, elle a posé sa tête. Et c'était un moment très très fort, quoi, vraiment. Il y a des moments comme ça dans sa vie.